Le premier ministre Justin Trudeau avait choisi un endroit de circonstance pour exprimer sa joie sur la levée des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada aux États-Unis. Il avait choisi une aciérie de Hamilton en Ontario.
Oui, effectivement, parce qu'on sait que l'acier et l'aluminium, 90% et plus de ces deux produits sont produits ici au Québec, particulièrement pour l'aluminium, mais également pour l'acier, en Ontario. Il y avait deux buts qui étaient visés là-dedans par Donald Trump, entre autres, c'est de faire accepter, donc, au Congrès, qui est maintenant démocrate, le fameux accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, mais également de se trouver des alliés. Juste pour paraphraser Clément Gignac, qui est l'économiste en chef chez Groupe financier industriel Alliance, qui mentionnait que les tensions commerciales avec la Chine sont rendues telles que là, on fallait peut-être commencer à avoir des alliés quelque part. C'est peut-être pour ça aussi qu'élever aussi, en tout cas, du moins retarder d'au moins 6 mois les tarifs supplémentaires qu'on voulait mettre sur les véhicules automobiles, donc qui provenaient de l'Europe et également, entre autres, du Japon. Et en même temps, s'entendre avec le Canada et le Mexique sur la levée des tarifs, et très rapidement en plus, là, c'est pas l'année prochaine, ça se fera, c'est d'ici lundi. Alors, on voit qu'il y a une certaine rapidité là-dedans pour essayer de se trouver des alliés supplémentaires pour contrer la Chine, parce que là, ça va pas tellement bien là-bas, surtout que la guerre, ça s'étend au domaine de la technologie, sécurité nationale. Là, ça annonce aussi un repositionnement de l'approvisionnement mondial pour être peut-être plus territorial, c'est-à-dire en Amérique du Nord, être capable de s'approvisionner autant au Canada qu'au Mexique. Et en même temps, ça va peut-être donner une lueur d'espoir, ça, au sempiternel conflit du bois d'œuvre. Si on réussit à s'entendre sur l'acier et sur l'aluminium, alors il n'y a pas de raison maintenant qu'on ne lève pas les sanctions sur le bois d'œuvre contre le Canada.
Alors, puis on va rester dans la guerre commerciale livre en ce moment Washington et Pékin, des tarifs de 25% qui ont été imposés par Washington sur de nombreux produits chinois. Et voilà aujourd'hui que le géant américain du commerce, Walmart, dit qu'ils n'auront pas le choix, ils vont être obligés d'augmenter les prix de certains produits.
Tout à fait, parce que dans la première ronde de tarification des Chinois sur les Américains, ça se situait surtout vers le domaine agricole, quelques produits industriels, mais ça n'affectait pas trop les ventes au détail. Mais là, ça va commencer à les affecter très sérieusement, parce qu'on se dit que cette guerre commerciale-là devrait coûter à chacun des consommateurs américains près de $500 par année. Alors, comme on est dans une guerre de prix tout le temps et perpétuelle en tous les détaillants, ben là, il va falloir trouver une façon de faire pour être capable de garder cette rentabilité-là. Et c'est l'avertissement qu'a lancé, donc, le président de Walmart. Et regarde bien ce que je te dis, Paul, au cours des prochaines journées, t'as Macy's, t'as Target, t'as JCPenney, qui vont également annoncer leurs résultats financiers et qui vont très certainement avertir que si la guerre commerciale ne se règle pas très rapidement, qu'on n'aura pas d'autre choix d'augmenter les prix à la consommation. Donc, les Américains sont peut-être plus mal pris que n'importe qui ailleurs dans le monde dans cette guerre aux tarifs, parce que ça va affecter directement là où ça fait mal, ça va faire mal donc aux consommateurs, comme ça commence à faire mal sérieusement au secteur agricole, particulièrement dans le Midwest américain. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il commençait à avoir de la grogne pas mal là, des fermiers américains contre le président Donald Trump, parce que là, il n'arrive pas à trouver une solution justement pour être capable de vendre soit le soya ou encore le blé de l'Ouest américain partout dans le monde, parce que le gros client, ce sont les Chinois. Et tant il y a aussi longtemps qu'il y aurait des tarifs, les Chinois sont pas très enclins à acheter leurs produits. Alors, c'est ce qui arrive présentement. Peut-être que les Chinois de ce côté-là auront trouvé une façon, en tout cas une arme supplémentaire pour être capable de faire fléchir les Américains. Remarquez que les Américains, par les temps qui courent, sont pas prêts à fléchir, surtout si on commence à avoir des alliés un petit peu partout dans le monde.
Oui, et ça fait très mal aux Chinois. On n'en parle pas beaucoup. Ça va faire mal aux industries américaines, ça va faire mal à la clientèle américaine, si on veut. Oui. Mais les Chinois souffrent terriblement des tarifs qui ont été imposés.
Tout à fait, ouais. Parce que, tu sais, tu as beaucoup de compagnies américaines qui sont installées maintenant. Oui. Je pense à Apple, entre autres. Et si tu imposes des tarifs de part et d'autre, écoute, l'iPhone, il va commencer à coûter pas mal plus cher que 1 200 $.
Déjà, il est très cher.
Oui, très, très dispendieux.
On a connu a connu un hiver épouvantable. Tout le monde s'est plaint. Un hiver qui finit pas, des fois. D'ailleurs, oui. Même en fin de semaine, je regardais les minima, là, ça va être très bas.
Seigneur, ça
cependant, Hydro-Québec crie victoire parce que plus il fait froid, ben, plus on a vendu d'électricité.
Oui, effectivement, parce que tu vois, on a fait un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars. C'est une hausse de 8 % par rapport à l'an dernier. Et la part du Lion, il y a au moins 130 millions du bénéfice net qui provient directement du marché québécois et qui est imputable à plus de 80 % donc au froid qu'on a reconnu au cours de l'hiver dernier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu leur compteur au cours des derniers mois, mais disons que ça roulait quand même pas mal vite. Alors, ça allait vite. Et les comptes d'électricité, pour ceux qui n'ont pas de tarifs égaux, là, j'en ai vu passer quelques-uns, des 500-600 $ là, pour 2-3 mois, là, c'était pas rare.
Ouais.
C'était pas rare. Donc, ça commence à coûter extrêmement cher. Et aussi, les exportations nettes qui ont rapporté quand même 515 millions. Il faut quand même dire que les exportations rapportent beaucoup. C'est une hausse de 29 millions par rapport à l'an dernier. Donc, 1,8 milliards, ça commence très, très bien l'année pour Hydro-Québec.
On termine avec cette transaction imminente, semble-t-il, entre Air Canada et Air Transat, et j'en parlais justement hier, en parlait avec Pierre-Yves McSween. Est-ce que, d'abord, premièrement, les patrons d'Air Transat vont quitter...
Ils vont faire de l'argent.
Ils vont faire de l'argent. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'on va être capable de protéger la marque Transat, les couleurs Transat, le logo Transat?
Ben, il y a deux points de vue là-dedans. Il y en a certains qui se disent, bon, on va l'intégrer. Est-ce qu'on va intégrer Air Canada Rouge dans Transat ou si on va intégrer Transat dans Air Canada Rouge? Disons que c'est deux façons de faire des affaires qui sont très différentes. Air Canada Rouge, c'est un transporteur à rabais. Air Transat, c'est un transporteur tout court, comme Air Canada d'ailleurs. Mais il ne fait que de l'international, il ne fait pas de vol intérieur, contrairement à Air Canada Rouge, qui en a quand même quelques-uns. L'autre point de vue, c'est que la marque Air Transat est quand même une marque de renom. C'est quand même l'une des 5 marques à travers le monde qui a le plus d'étoiles, en tout cas parmi les compagnies aériennes. Qui sont spécialisés dans le transport strictement pour les voyages. Alors, il serait extrêmement difficile, disent certains experts, pour Air Canada, du moins pour l'instant, d'éliminer cette marque-là qui a quand même un renom. Alors, donc, éliminer Transat, ça éliminerait peut-être aussi quelques clients qui sont habitués de voyager, qui sont habitués, qui ont un service qui somme toute est impeccable chez Transat et qui attire cette clientèle-là. Par contre, est-ce que ça aura un effet sur la tarification? Ça, c'est clair, Paul,
qu'il
y a beaucoup de routes.
C'est
il y a beaucoup de routes qui sont exactement les mêmes. Je pense à Paris,
Nice.
Je pense à Nice, Barcelone. Je pense également à Israël, Tel Aviv. Qui est desservi autant par Air Canada. C'est sûr qu'il y aura des routes qui seront soit éliminées, ou soit que les tarifs vont carrément augmenter pour Transat. Alors donc, client, même pour le Mexique, qui est une grosse partie des affaires d'Air Canada. Par contre, pour Transat, c'est surtout les Caraïbes. Les Caraïbes, beaucoup moins desservies par Air Canada. Là, de ce côté-là, peut-être qu'on aurait un répit. Mais pour le nom, certains disent qu'ils n'auront pas le choix de le garder encore quelques années. Mais ça, on verra ça.
Ouais.
Air Canada, pas trop habitué de garder le nom
non,
des autres.
Non, rappelle-toi Canadian.
Absolument.
Quand ils
Canadien
ont...
Pacifique au départ, Canadian ensuite. Puis,
mais ils avaient été subtils parce que, je me rappelle, ça venait tout juste d'être fait. J'avais pris un Boeing 737 qui appartenait à Canadian.
Oui.
Et Canadian était passé à Air Canada. Ce qu'ils avaient fait, ils avaient gardé le fuselage Canadian avec l'oie sauvage, qui était l'emblème. Et sur la queue, immédiatement, on voyait l'immense feuille d'érable d'Air Canada. Ça a duré un an ou deux. D'après ça, c'est devenu entièrement Air Canada.
Tout à fait. Alors, on les passe à peinture, puis c'est réglé.
Ouais.
Mais pendant ce temps-là, que si ça se déroule tel que tel aujourd'hui, Paul, disons que les hauts dirigeants, il y en a 12, là, ils vont empocher quand même pas mal d'argent. On parle de 54 millions.
Okay.
Et là, on parle d'indemnité, de boni, de régime de retraite. À lui seul, Jean-Marc Eustache, c'est 30 millions, 5,5 pour l'indemnité de départ, et s'ajoute des actions d'une valeur de 9,4 millions, puis une retraite de 15,6. Il est pas à pied.
Il est pas à pied. Merci et bon week-end.
Toi aussi, bye-bye.